France Musique. Musique et moi, une émission en partenariat avec le magazine Grazia.
Musique et moi.
Mettine Arditi.
Elsa Boublil.
À chaque instant, l'être recommence.
Nietzsche, ainsi parlait Zarathoustra.
Allô, allô, mais non, madame, nous sommes plusieurs sur la ligne, raccrochez. Vous êtes avec une abonnée. Mais madame, raccrochez vous-même. Allô, mademoiselle. Mais non, ce n'est pas le docteur Schmidt. 08, pas 07. Allô, c'est ridicule. On me demande. Je ne sais pas. Allô, mais madame, que voulez-vous que j'y fasse? Comment, ma faute? Pas du tout. Allô, mademoiselle? Dites à cette dame de se retirer.
C'est sur cette tragédie lyrique moderne et angoissante de Francis Poulenc, d'après un monologue de Jean Cocteau, La voix humaine, qui raconte le désespoir d'une femme accrochée à son téléphone, que nous vous accueillons, Mettine Arditi, auteur, homme d'affaires, mécène et scientifique. Vous avez récemment signé chez Grasset Carnaval Noir, un roman qui nous entraîne dans une folle intrigue qui traverse les siècles d'un carnaval vénitien au drame du terrorisme. Un roman plein d'érudition et de références, tout comme votre dictionnaire amoureux de l'esprit français qui vient de paraître chez Plon Grasset et dans lequel vous mentionnez Francis Poulenc comme incarnant l'esprit français dans sa conception la plus haute et la plus complète. Je vous citais à l'instant. Bonjour Mettine Arditi.
Bonjour Elsa Boublil.
Il y a quelque chose d'ailleurs de l'éternel recommencement dans cette œuvre de Poulenc, avec cette angoisse de qui est-ce qu'il y a quelqu'un au bout du fil?
Alors, il y a quelqu'un au bout du film, et effectivement, ce quelqu'un est très évanescent, il est insaisissable.
Oui.
Et comme toutes les grandes œuvres d'art, où il y a cette dimension d'insaisissabilité, ces œuvres qui nous échappent, n'est-ce pas, qui nous fuient, c'est ça la fugue. Quand c'est réussi, c'est un chef-d'œuvre absolu. Et c'en est un. Il réunit à la fois la spiritualité de Poulenc, et puis l'amour-passion que je crois Jean Cocteau a éprouvé pour un garçon et qu'il a transcrit dans le cadre d'un couple homme-femme. C'est un sommet de la musique du XXe siècle.
Oui.
Je ne sais pas qui chantait cette version.
Alors là, c'est Félicité
C'était
Lotte.
Félicité Lotte que j'ai entendue quand je m'occupais de l'orchestre de la Suisse romande. Et je l'ai entendue au Victoria Hall à Genève, chanter sous la direction d'Armin Jordan.
Et ben voilà, c'est la version avec l'orchestre de la Suisse romande sous la direction d'Armin Jordan.
Voilà, ben c'est magnifique.
Et alors on va pouvoir en parler. La musique est très présente dans votre vie depuis longtemps. Mettine Arditi, on vous connaît essentiellement comme écrivain, mais on va pouvoir découvrir au fil de cette émission que la musique a occupé une grande partie de votre vie. Je voulais parler aussi de cette phrase de Nietzsche que vous avez citée, extraite d'Ainsi parlait Zarathoustra. À chaque instant, l'être recommence.
Ah, c'est une phrase qui m'accompagne. Faut jamais perdre espoir.
Thank you.
un air traditionnel turc que je vais me hasarder à prononcer, Metin Ardıtı, Üsküdar'a Giderken.
Pas mal.
Pas mal.
Not bad at all.
Bon, voilà, pour commencer cette émission avec vous, bien sûr, un air traditionnel turc pour évoquer votre enfance, puisque vous avez grandi en Turquie les premières années de votre vie.
Voilà, jusqu'à l'âge de 7 ans.
Et donc, c'est une musique qui était là, qui a bercé l'enfance, oui.
Oui, je me souviens des paroles de cette époque-là.
C'est vrai, oui. Qu'est-ce que ça raconte?
Oh, ben, c'est l'histoire d'un homme qui va à Üsküdar. Üsküdar, c'est vis-à-vis d'Istanbul. On dit que c'est la rive asiatique d'Istanbul, mais c'est faux. Istanbul, c'est en Europe. En français, c'est Skutari. À l'époque, il n'y avait pas encore les ponts qui relient l'Europe à l'Asie. On y allait en bateau. Et ça raconte, en allant à Skutari, je me suis retrouvé sous une pluie battante. Et j'avais avec moi mon secrétaire, puisque les secrétaires, c'était des hommes, n'est-ce pas? Et la chanson dit « Kartibimin setelesi uzun etei chamur ». La robe, enfin le manteau de mon kartib, de mon secrétaire, était long et le bas était boueux, etc. Après, il dit, en allant à Üsküdar, j'ai trouvé « Bimendil buldum, yen mendilinin içine de lokum doldurdum ». J'ai trouvé un mouchoir, et dans le mouchoir, j'ai mis des loukoum.
On avait reconnu loukoum lors de cette enfance à Ankara, puis à Istanbul.
Oui.
Ça reste des beaux souvenirs.
Ça reste des souvenirs très forts, des très beaux souvenirs et impérissables. Impérissables à plus d'un titre. D'abord parce que, à titre personnel, c'était de très belles années. Et puis, par comparaison à aujourd'hui, c'était quand même une société plurielle à l'époque, Istanbul. Il y avait la moitié de la population de la ville qui était étrangère, et ce n'étaient pas les banlieues, c'était le centre-ville, c'était des Grecs, des Arméniens, des Russes, des Français, des Italiens, des Juifs aussi, qui cohabitaient quand même en paix.
Votre famille était installée en Turquie depuis longtemps ?
Alors, ma famille, du côté de ma mère, depuis très longtemps à Ankara, une famille très modeste. Ankara, il y avait un tout petit quartier très modeste judéo-arménien. Et ma grand-mère était analphabète, elle ne parlait que le judéo-espagnol. Et mon père, lui, venait d'une famille plus ouverte de Roustchouk, qui était la Bulgarie ottomane. Et c'est son père qui a fait le trajet de Roustchouk à Istanbul, mon grand-père.
Donc, beaucoup d'exodes et d'exil.
Ah oui.
On va aller un petit peu du côté de l'Arménie.
Thank you.
Jean-Marc Philips Varjabédian, Xavier Philips Vahan Mardirossian interprètent cette danse du sabre guyanais de Aram Khatchatourian. C'est une danse tourbillonnante, enfiévrée, chromatique, avec des notes répétées en staccato, qui vous faisait penser d'ailleurs, je crois, Metin Arditi, à l'exil. Vous disiez, c'est chargé d'exil,
oui,
cette musique.
Oui, c'est chargé d'angoisse. C'est la musique des peuples qui ont leur histoire jalonnée de fuite. C'est pas une musique sereine, c'est une musique bouleversante. C'est, voilà, le lot des Arméniens qui ont essaimé le monde, ils sont partout, et qui ont subi toutes les invasions qu'on peut imaginer au fil des siècles, au fil des millénaires même. Et voilà, c'est un disque qui était chez mes parents quand ils ont acheté un électrophone. J'étais tout petit, je devais avoir 4 ou 5 ans, et c'était le seul disque de musique dite classique, un peu classique, enfin c'est une musique très populaire. Et les autres disques étaient tous soit des disques de musique française, soit hispanique.
Qu'est-ce que faisaient vos parents justement à Istanbul? Leur métier, c'était quel milieu?
Alors ma mère n'avait pas de métier, elle était à la maison, et mon père était importateur de produits scientifiques d'Europe en Turquie. Il avait passé une partie importante de son enfance et de son adolescence à Vienne. Il avait arrêté ses études à 14 ans, comme ma mère. À Vienne, il avait vécu dans la pauvreté. Il avait rejoint sa sœur, dont le mari était restaurateur. Enfin, c'était des années très noires, l'entre-deux-guerres à Vienne. Et à cette époque-là, mon père, qui était un jeune garçon très brillant, très doué, d'abord a très vite et très bien appris l'allemand, puis il est rentré au Parti Socialiste, dont il est devenu un des dirigeants des jeunesses socialistes. Et il a donc fréquenté un monde très intellectuel. La culture était vraiment le mode d'émancipation à cette époque-là. Et on voulait faire partie de l'élite culturelle. Le mot « élite » n'était pas une insulte, c'était un idéal. C'est autre chose. Et donc, voilà, il est rentré en Turquie parce qu'il était pourchassé par la police du fait de ses activités anti-nazis. Il a fait son service militaire en Turquie comme professeur d'allemand à l'académie militaire d'Ankara. Il est entré, alors justement, ça rejoint un petit peu la chanson de tout à l'heure, il est rentré comme secrétaire d'un homme d'affaires. Les secrétaires, c'était des hommes. Et comme il parlait, il écrivait parfaitement l'allemand, il s'est chargé de la correspondance allemande, et puis ensuite il s'est mis à son compte, et puis il a importé en Turquie des équipements scientifiques, soit pour faire les routes, soit pour la pharmacie, la médecine, des instruments de physique.
Et puis vous, à 7 ans, ils ont décidé, vos parents, de vous envoyer en Suisse.
Voilà.
Ça, c'est la rupture jeune.
Thank you.
Pierre Fournier interprète avec l'Orchestre de la Suisse romande sous la direction de Ferenc Fritschai le concerto en la mineur opus 129 pour violoncelle de Robert Schumann dans son troisième mouvement. Et Metinarditi, ça vous a ému parce que c'est un souvenir gravé dans votre mémoire de manière tout à fait précise.
Ah oui, c'était la première fois où non seulement où j'allais à un concert symphonique, mais où je découvrais ce qu'était la musique symphonique. Puisque j'étais à l'école, j'avais 12 ans, j'étais en internat, on n'écoutait jamais de disques de musique symphonique, mais je faisais des études de piano, donc je me suis inscrit un jour au concert que donnait l'orchestre à la salle de Beaulieu à Lausanne, et c'était vraiment un éblouissement qui a démarré avec les danses de Galanta de Kodály.
On va pouvoir l'écouter là.
Dirigé par... son ancien élève, qui était Ferenc Fritschai. Ouais. Et puis ensuite, il y avait Pierre Fournier, ce concerto. Une histoire incroyable.
Oui, et puis vous le disiez, parce qu'on écoutait sa façon d'interpréter, qui est très simple, oui. Qui ne cherche pas à faire des effets. Vous disiez que c'est ce que vous reteniez de l'homme, que vous avez en plus eu la chance de rencontrer après.
Je l'ai connu bien après, et je me souviens parfaitement de notre discussion, parce que je lui disais... un peu embarrassé qu'au fond, à cet âge-là, ce qui m'avait frappé le plus dans ce concert, ce n'était pas le Schumann, mais c'était les danses de Galanta. Et là, on voit ce qu'est un grand monsieur. Il a réagi en grand monsieur, il m'a mis à l'aise et il m'a dit, vous savez, toute vraie musique est d'abord une musique populaire. Mmh. Voilà, ça c'était la classe de Pierre Fournier.
Musique et moi ? Elsa Boublil, France Musique.
Je vous propose, parce que vous vous souveniez, Metinarditi, de la date précise du concert que je vais citer, quand même, parce qu'il faut se souvenir de ces choses-là.
Oui, 4 février 1957, j'avais 12 ans et 2 jours.
Exactement. Et donc, vous vous souvenez non seulement de ce que vous avez entendu, donc ce concerto en la de Schumann, mais aussi donc les danses de Galanta.
Qui est un morceau exceptionnel.
Ah ben, on l'écoute. Oui. Les danses de Galanta de Zoltán Kodály, interprétées par l'orchestre du Festival de Budapest sous la direction de Ivan Fischer. Alors ces danses sont inspirées de l'orchestre de l'enfance de Kodály qui avait à Galanta un orchestre tzigane qui jouait là où il a grandi. Et c'est de ça qu'il s'est inspiré pour écrire ces danses de Galanta. Et Metin Arditi, ce que je trouve fascinant, c'est que votre premier concert, c'est ça qui est au programme.
Les premières notes. Je rentre dans cette salle où je n'avais jamais mis les pieds. Je vois un immense orchestre devant moi, première fois de ma vie, et un chef dont on m'avait dit que c'était un très grand chef, ouais. Effectivement.
Fang Fuchai.
Et puis voilà, les premières notes, c'est ça. Il y a de quoi marquer pour toujours.
Mais j'imagine que vous ne saviez pas du tout ce que ça racontait.
Je ne savais rien de ce qui m'attendait. Je m'étais inscrit à ce concert et tout est venu comme un immense étonnement après l'autre. À la fois la salle, l'orchestre, cette musique et puis ensuite le Schumann. Voilà.
Vous aviez donc 12 ans et 2 jours, vous lisiez tout à l'heure, Metin Arditi. On n'a pas évoqué ensemble ce qui a poussé vos parents à vous envoyer en Suisse à l'âge de 7 ans, parce que 7 ans c'est petit, et vous y avez été tout seul, c'est ça?
Oui, j'étais mise en internat et pendant 11 ans. Qu'est-ce qui a poussé mes parents? C'est assez compliqué.
Si vous voulez bien dire un mot ou deux.
Oui, il est évident qu'à cette époque, le système scolaire turc ne valait pas le système scolaire suisse, les internats suisses, qui aujourd'hui ont une belle réputation en tant qu'internat de luxe, de grand luxe. À l'époque, avait quand même un côté internat anglais. C'était du reste le modèle de l'école où on m'avait mis, c'est-à-dire assez dur du point de vue de la discipline. Et évidemment, vu de Turquie, une chance exceptionnelle. Aujourd'hui, on a tendance à créer des groupes de soutien psychologique à tour de bras. À l'époque, on ne savait pas ce que c'était. On nous mettait là et j'avais des copains qui venaient d'un peu partout au monde et on était tous dans la même situation. Oui, c'était dur, mais enfin, on mangeait bien, on faisait de bonnes études, on faisait énormément de sport. Il y avait évidemment des duretés inhérentes à ce type d'internat. On voyait très peu les parents, on communiquait extrêmement peu, il n'y avait pas le téléphone. Enfin, le téléphone existait, mais personne ne téléphonait jamais.
Puis il y a la rupture culturelle, j'imagine.
Oui et non, parce qu'au fond, nous étions une famille polyglotte, on parlait français à la maison, mais également turc, j'entendais l'espagnol. Non, ce côté polyglotte est resté, je l'ai retrouvé en internat. Non, je crois que, au fond, les dégâts avaient ce mérite d'être cachés. Ils se sont réveillés plus tard. Lorsqu'on grandit loin des siens et que l'on n'a pas vraiment l'occasion de développer les gestes, les mots et les pensées de la tendresse au quotidien, il arrive un moment où il faut payer la facture.
Ah, quand même, oui.
Ah oui. Pour moi, c'était très simple. C'est venu exactement, je peux vous dire, lorsque ma fille aînée, âgée de 7 ans, l'âge que j'avais quand on m'a mis en internat, a eu son premier Noël. Et ça m'a fait penser au Noël que je passais à l'école. Et celui de ma fille était extraordinairement festif, familial et chaleureux. Ce n'était pas tant pour le Noël manqué que tout à coup je saisissais ce que j'avais raté. C'était pour les 364 autres jours de l'année multipliés par 11. Et ça, c'était un moment de bascule. Et puis finalement, vous savez, on se reconstitue. Vous m'avez demandé avant de cette émission ma phrase préférée. Je vous ai dit, à chaque instant, l'être recommence. Disons qu'il y a une relation de cause à effet.
Thank you.
extrait du deuxième mouvement de la symphonie numéro 9 en ut majeur de Franz Schubert, interprété par l'orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam sous la direction de Bernard Haitink. Vous l'avez reconnu dès les premières notes, Metin Arditi. Je voulais évoquer avec vous ce lien qui s'est fait au fil du temps. Il y a donc cette Suisse dans laquelle vous atterrissez, 11 ans de votre vie en internat. Et en fait, finalement, vous y restez. Et non seulement vous y restez, mais vous tissez un lien extrêmement fort avec l'orchestre de la Suisse romande.
Oui, ça s'est fait bien après, n'est-ce pas, au fil des ans, un lien très très fort, puisque j'y étais quasiment 18 ans, la première année comme membre du bureau, ce qu'on appelle le conseil exécutif, 4 ans comme vice-président et ensuite 13 années comme président. C'était du bénévolat, mais c'était du bénévolat quasiment à plein temps, surtout les années de présidence et surtout les premières années, parce que là, l'orchestre... Donc, j'avais été appelé à la présidence parce que l'orchestre allait vraiment très mal sur le plan artistique autant que sur le plan financier. Souvent, les deux choses vont de pair.
Oui.
Et donc, c'était des années fantastiques qui m'ont énormément apporté sur mille plans. J'ai beaucoup appris des hommes, j'ai appris des gens, j'ai appris des difficultés. Parce qu'être président d'un orchestre qui est très largement subventionné, c'est quasiment faire de la politique. C'est passer beaucoup de temps à l'orchestre, mais également beaucoup de temps
à l'extérieur,
à batailler, à ferrailler pour avoir les subventions indispensables. Évidemment, ça m'a beaucoup apporté sur le plan strictement musical. J'ai fait des découvertes. Je me souviens d'une discussion avec Armin Jordan où je lui disais « Oh là là, qu'est-ce que tu veux ? Moi, je te parle de ça, mais je ne sais même pas de quoi je parle. » Et il m'avait dit, je me souviens très très bien, c'était un déjeuner à Genève à l'hôtel du Rhône, il m'avait dit « Tu ne te rends pas compte de ta chance. Tu as la possibilité de faire des découvertes. Moi, je n'ai plus cette possibilité. Tu as des joies qui t'attendent. » Donc, il y avait ça. Et puis, également, ce que la musique m'a apporté sur le plan de l'écriture, c'est tout simplement immense. C'est-à-dire, c'était déterminant. À la fois... Parce que je crois que c'est vraiment en assistant à des répétitions, en voyant un chef s'acharner sur un musicien pour un petit détail.
Comme ici, hein, je crois, dans ce...
Exactement, ça c'était à Montpellier, qui fait que tout à coup, de là où j'étais assis pendant la répète, je me disais, mais c'est très très bien, et de magnifique, la musique devenait sublime. Et ça tenait à quoi ? Ça tenait à trois fois rien. Et ça, c'est vraiment le travail de l'artiste.
Et pour l'écriture, c'est pareil.
Pour l'écriture, c'est exactement pareil. Ça tient à rien, mais la vérité, elle est là. Et puis aussi, autre chose encore, c'est-à-dire que moi, je relis tous mes textes à haute voix. Et finalement, il n'y a rien de tel que la musicalité d'un texte pour atteindre le cœur du lecteur, même si lui-même ne lit pas le texte à haute voix.
Il faut que ça chante quand vous le relisez.
Absolument. Il faut qu'un texte puisse parler au cœur sans même, je dirais, à l'extrême, que le lecteur qui l'écoute en comprenne un traître mot. Mais si c'est bien dit et s'il est beau, il touche.
Thank you.
L'Allegretto de la symphonie numéro 7 en La majeur, opus 92 de Beethoven, interprété par le West Eastern Divan Orchestra sous la direction de Daniel Barenboim. Metinarditi, ça fait partie des orchestres que vous vouliez nous faire entendre pour une raison précise, parce que à la fois vous êtes, vous œuvrez pour la paix, ça c'est vrai, c'est une partie importante aussi de votre vie, et puis vous avez été mécène, vous êtes mécène.
Je le suis toujours, et en particulier dans cette région du monde où j'ai créé, il y a de cela 10 ou 11 ans, avec mon ami Elias Sambar, qui est l'ambassadeur de Palestine à l'UNESCO, une fondation genevoise intitulée Les Instruments de la Paix, qui soutient l'éducation musicale, que ce soit en Palestine ou en Israël, là où on peut, là où il y a un besoin, et que ce besoin est à la fois identifié par nous et dans nos moyens. Donc nous avons beaucoup aidé les conservatoires de musique de Palestine. Maintenant, nous aidons de manière prépondérante une école de chant à Mouage, qui est venu du reste en France donner des concerts cet été. C'est une école de chant choral d'enfants de Hébron et de Bethléem. Mmh. Et nous aidons également un conservatoire qui est à Nazareth, sur territoire israélien.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui a motivé ce besoin, Metinarditi ?
Probablement beaucoup de choses. Un attachement certainement à l'idée qu'un jour, il doit y avoir la paix dans cette région. Peut-être aussi, je le dis avec une grande vanité, peut-être aussi un sentiment de responsabilité personnelle, de faire ce que je peux pour apporter ne serait-ce qu'une goutte d'eau. Je trouve que la musique a ceci qu'elle donne une dignité aux gens qui la pratiquent, pas seulement qui l'écoutent, mais qui la pratiquent. C'est difficile de faire de la musique. Et moi, je vois ces enfants qui sont dans des situations difficiles liées à la politique, ce que le fait de pratiquer la musique, d'apprendre la musique, leur apporte comme structure. Vraiment, ça leur donne une dignité. Je me dis que, au-delà de la beauté que ça apporte, peut-être qu'un jour, un de ces enfants, à l'âge adulte, fera quelque chose pour la paix, et que ce quelque chose sera directement lié à son expérience musicale.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Et vous, Metinarditi, est-ce que vous pensez, on écoutait tout à l'heure ce premier concert auquel vous avez assisté, est-ce que vous pensez que la musique a modifié vos paramètres, l'enfant que vous étiez, un peu isolé, il faut bien le dire, loin de ses parents, est-ce que la musique a pu...
La musique, mais également d'autres formes d'art. Je crois que les arts, vraiment, jouent dans nos vies, dans les vies de tout un chacun, un rôle qui est absolument irremplaçable. Ils nous apportent la beauté et ils nous apportent en même temps une discipline, une structure. Et donc, elles remplissent beaucoup de cases, elles cochent beaucoup de cases.
Et elles remplissent certains manques ?
Alors, ce sont effectivement... Vous avez parfaitement raison. Les émotions que j'ai reçues pendant mes 11 années d'internat, de la pratique des arts, c'est-à-dire la musique, mais également l'écriture et peut-être au-dessus de tout le théâtre, je jouais beaucoup au théâtre, d'abord je crois qu'elles m'ont sauvé la vie. Ensuite, c'était certainement les émotions qui étaient les plus proches de celles que l'on ressent dans les bras d'une mère. Je suis convaincu de cela. Thank you.
un piano qui grince un petit peu dans ce blues de Ravel interprété par Fazil Say et Patricia Kopaczynskaya. Ils ont mis des cendriers sur les cordes pour le rendre préparé et pour le rendre un peu plus dans ce swing que voulait sans doute Ravel. Fazil Say et Ravel, pour vous, Metin Arditi, parce que Ravel, je crois qu'il fait partie des compositeurs que vous aimez particulièrement. Et puis ce compatriote, Fazil Say, qui est un interprète turc.
Qui est un interprète turc, qui est venu jouer avec nous à Genève et qui a développé un profil très particulier. C'est devenu quelqu'un, un personnage dans le monde de la musique classique, un peu off. Mais voilà.
Un peu off, c'est-à-dire?
Un peu off. Bon, il a ses propres interprétations, il a ses compositions. Je dirais que ce n'est pas Luganski. Voilà, c'est autre chose. Question de goût.
Oui, qui n'est pas forcément apparemment votre goût. Mais là, dans ce blues de Ravel, puisqu'on écoute Ravel...
J'ai bien aimé le violon.
Oui, Patricia Kopaczynskaya.
Oui. Magnifique.
Oui. Ravel, vous disiez que c'était, s'il fallait choisir un compositeur, ça vous a été difficile, ça aurait été Ravel. Pourquoi Ravel? Alors là, vous
c'est
en parlez
un génie.
Bien hein, dans le dictionnaire amoureux.
Oui, c'est un génie.
C'est un génie.
C'est un génie à plus d'un titre, d'abord dans la composition, une grande sensibilité, et puis alors l'orchestration. Quel champion de l'orchestration, à la fois pour ses propres mélodies. Et puis, il y a bien sûr les tableaux d'une exposition de Moussorgski, dont son orchestration est vraiment celle qui fait référence dans le monde entier, dans des morceaux les plus joués au monde. Et c'est génial.
Vous citez Ravel citant Mozart, et il ajoute « La musique peut tout entreprendre, tout oser et tout peindre, pourvu qu'elle charme et reste enfin et toujours de la musique. »
Oui.
Ces mots auraient pu, je crois, être de Debussy, vous finissez par dire dans la définition de Ravel, parce que Ravel fait partie de ces compositeurs que vous avez écoutés dans cette conquête de l'esprit français, puisque vous avez consacré un dictionnaire amoureux à cet esprit français. Est-ce qu'il correspond à cette particularité de cet esprit français?
Ah, il en est l'une des facettes. Il faut dire une chose, n'est-ce pas? C'est que des compositeurs français fantastiques, il y en a plein.
Et il y en a plein dans votre dictionnaire.
Et il y en a eu à toutes les époques.
Oui.
Hein? Rameau, déjà, qu'est-ce qu'il n'a pas apporté?
Oui.
Couperin. Et puis, évidemment, le début du XXe siècle, quel festival! Je dis, quel feu d'artifice! Oui, il y a quelque chose dans la musique française qui correspond de très près à l'esprit français, c'est-à-dire quelque chose de très précis, très abouti et surtout très léger. On n'est pas dans la grande musique allemande, on n'est pas dans les grands développements. On est dans quelque chose qui est proche des fables de La Fontaine. Tout est dit en trois mots, en quelques notes. Satie, par exemple. Ça, c'est de la musique française. Et puis, évidemment, les compositeurs qui ont œuvré à faire du chant classique à la française une expression qui est parmi les plus abouties de toutes les formes d'art.
Et sans jamais s'apesantir, c'est ça?
Jamais, surtout pas. Ce serait le péché mortel de s'apesantir.
Et vous, quand vous écrivez, Metin Arditi, vous êtes empreint de cet esprit français?
Alors, je suis un besogneux de l'écriture et je m'échine à réécrire mes textes 30, 40, 50 fois jusqu'à ce qu'ils soient à peu près présentables.
Thank you.
le premier livre des madrigaux de Monteverdi, Polk et del mio dolore, que j'ai choisi pour évoquer votre dernier roman, Carnaval noir, paru chez Grasset, Metinarditi, parce qu'on est à Venise, à la fin du XVIe siècle, mais on est aussi aujourd'hui à Venise, où vous nous faites drôlement voyager à travers le temps. Et c'est vrai qu'ici, l'expression du texte prend le pas sur l'harmonie au lieu de lui être inféodée. Je me disais, est-ce que vous avez écouté des musiques pour nous plonger dans cette époque, là, fin XVIe siècle?
Non, pas du tout. J'étais dans les musées. J'étais beaucoup au Vatican, à la bibliothèque et dans les musées, devant les toiles, parce qu'au fond, mon histoire tourne autour d'un tableau.
Avec 12 doigts.
Le Christ aux 12 doigts, comme les 12 signes zodiacaux. C'est le Christ omnipuissant, n'est-ce pas? Le Christ superstar, c'était ce que voulaient certains membres de l'Église au moment où il y avait... le protestantisme qui était en train de tailler des croupières à l'Église romaine, en Italie même, en particulier en Toscane et en Ombrie. Donc, vraiment, je suis parti de la représentation.
Oui, pas de musique du tout. Qu'est-ce que vous... Par exemple, c'est justement, là, les madrigaux de Monteverdi vous évoquent, est-ce que...
Ah, moi, ça m'évoque l'Église.
Oui.
Oui, ça m'évoque, vous le disiez, c'est le mot quand même, c'est le mot qui prime. La musique est là pour le faire passer, et donc il n'y a pas une sorte de soumission de l'artiste au plaisir de celui qui écoute. Il y a quand même un petit peu une volonté de contrôle.
Ouais.
Ça me gêne.
Ça vous gêne, ouais.
Oui.
Mais c'est ce que vous évoquez aussi beaucoup dans Carnaval Noir.
Ah oui, c'est ça.
Oui, c'était à dessein.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Metinarditi, l'écriture, elle est venue tard chez vous, mais depuis vous n'arrêtez plus d'écrire. À 50 ans, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous mettiez à écrire?
Oh, il y a eu une série de rencontres tout à fait fortuites, mais je dois dire que j'écrivais quand j'étais petit. Donc quand j'étais en internat, j'ai été publié à 13 ans d'une nouvelle en France par un magazine du groupe Hachette. C'était le papa d'un copain d'école qui était le représentant de Hachette en Suisse, qui a vu ce conte que j'avais écrit pour ma mère, et puis qui l'a envoyé à Madame Lazareff, qui l'a fait publier. Et puis ensuite, évidemment, j'ai vécu une autre vie, j'ai fait des études de physique, mais l'écriture comptait beaucoup pour moi, et à un moment donné, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup lu La Fontaine pendant ma période d'homme d'affaires. La Fontaine m'a énormément apporté et il a bien involontairement essayé de cadrer et de limiter toute ma vanité. La Fontaine est un auteur qui amène à l'humilité. C'était très important pour moi, une époque où, je dois dire, ça marchait bien au-delà du raisonnable dans les affaires. Ça m'a beaucoup apporté, garder les pieds sur terre. Et puis, je suis devenu un familier de la faculté des lettres. Et lorsqu'en 95, elle a organisé un colloque à l'occasion du tricentenaire de la mort de La Fontaine, la faculté m'a demandé de faire l'une des présentations en tant que lecteur, pas en tant que scientifique. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis, ça a bien marché, ça a été bien accepté et c'est devenu mon premier livre, Mon cher Jean, une lettre écrite au fabuliste. Et puis voilà, après, le goût de l'écriture m'est revenu vraiment en plein, une sorte de boomerang, après l'avoir abandonné pendant tant d'années. Et c'est assez drôle parce que j'ai eu le sentiment en écrivant de retrouver une sorte de dignité d'enfant. Et alors, ensuite, je n'ai fait que ça.
Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Thank you. bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte después. Ay, ay.
Gilberto interprète Bésame Mucho. Alors, Metin Arditi, vous associez la littérature à la musique, mais l'amour également à la musique.
Forcément. Ouais. C'était la chanson d'un premier amour. C'était pas cette version. Il faut dire que cette version, elle est vraiment d'une douceur. Enfin, comme en général, la musique brésilienne est d'une délicatesse incroyable.
Ouais.
Ouais, c'est vraiment très doux.
Et ce souvenir amoureux, là, c'était... la musique peut laisser des empreintes comme ça, fortes, émotionnelles. Vous pouvez recontacter...
Oui, c'est pour ça, je crois que nous sommes tous très sensibles à la musique, parce que quand on écoute une musique dans un contexte fort, important, on se souvient de la musique autant que du contexte. Donc, pour moi, c'était cette chanson... voilà. Elle était chilienne, si vous voulez tout savoir.
Et alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on le diffuse parce que vous vous êtes rendu compte par la suite, on va l'écouter là, que finalement, l'amour, au moment où on le vit, on pense que c'est l'amour le plus vaste. D'ailleurs, dans Carnaval Noir, on ressent cette force de l'amour qui vous prend comme ça. Et puis, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, ça pouvait être encore plus fort. Et donc,
oui,
il y a une autre musique associée.
Absolument, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs premiers amours,
oui.
Parce que chaque fois, c'est autre chose.
Oui.
Et, voilà.
donc,
à chaque instant, l'être recommence et l'amour recommence.
C'est ça. Et donc, l'autre musique associée, c'est la composition de Chaplin, Feux de la rampe.
Les feux de la rampe, oui.
Thank you.
un extrait des Feux de la rampe de Charlie Chaplin. C'est le thème de Terry qui évoque avec vous, Metina Arditi, cet autre amour encore plus fort qui vous est arrivé.
Le vrai premier est venu en second. en deuxième. Puisqu'il y a eu d'autres premiers.
C'est bien, c'est la force de la musique et de l'amour. Chaplin, ça fait partie donc des compositeurs qui comptent pour vous.
Alors écoutez, c'est pas un très très grand compositeur, c'est un compositeur hyper doué de musique très populaire. Moi j'ai écouté très souvent celle qu'il a composée pour le film La Comtesse de Hong Kong. C'était des valses magnifiques. C'était un génie.
Et vous disiez l'avoir rencontré aussi en l'écoutant. Hein. C'est quelqu'un que vous avez eu la chance de
oui,
rencontrer.
Oui, je le voyais souvent, puisque j'allais souvent les week-ends au manoir de Ban. Ma première petite fiancée, c'était Géraldine.
On va se quitter sur ces jolis mots. Maintenant, je comprends mieux pourquoi ce deuxième amour était autour de ce thème de Charlie Chaplin. On va se quitter maintenant, Metina Arditi, avec justement parler d'amour avec l'air de Chérubin des Noces de Figaro, parce que j'aimais bien l'idée de terminer là-dessus, vous qui êtes un grand mélomane. Les Noces de Figaro, c'est jamais complètement devenu...
Alors, ça l'est devenu.
Ah, si.
Oui, ça l'est devenu, mais au départ, ça n'a pas fonctionné. Je pense que ça n'a pas fonctionné parce que probablement que la première production que à laquelle j'ai assisté donnait trop dans le burlesque. On a quand même cette tentation de rentrer dans le burlesque alors que Mozart est extrêmement humain, mais il n'est pas schématique du tout, tout au contraire, il est tout en nuances. Et donc voilà, j'ai eu une mauvaise première impression et puis ensuite évidemment... J'ai pris acte du fait que c'était peut-être le plus bel opéra qui ait jamais été composé.
Ah, ça c'est bien quand ça bouge comme ça. Merci beaucoup, Metina Arditi, d'être venue passer 7h30 en notre compagnie.
Merci à vous.
Je rappelle que Carnaval Noir a paru chez Grasset, c'était en septembre dernier, me semble-t-il.
Oui.
Et puis là, pour ceux qui aimeraient connaître mieux et plus en détail l'esprit français, vous avez composé, je vais dire, écrit le dictionnaire amoureux de l'esprit français chez Plon. Merci Metina Arditi et merci pour ces goûts musicaux partagés ce matin.
Cercam bene fuori di me, nel sole.
Cecilia Bartoli a interprété l'air de Chérubin des Noces de Figaro de Mozart avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne sous la direction de Claudio Abbado. Cette émission est terminée pour cette semaine. Merci à Alain Joubert qui était à la prise de son. C'est Sophie Pichon qui a réalisé cette émission, assistée de Marie Ferdinand. Je vous souhaite une très belle semaine à l'écoute de France Musique. On se retrouve, je l'espère, dimanche prochain à 11h. D'ici là, portez-vous bien.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.